Philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 5 mai 87.
Ça vous essayez la dernière fois de regarder la naissance de la vertu de force dans l'irascible. Avoir un irascible humain, c'est un irascible éduqué par la prudence et un irascible ennobli par la vertu de force. De l'intérieur, c'est de l'intérieur que cet habitus vertueux, la vertu de force, va lier l'irascible à la prudence dans son exercice.
J'ai brisé. J'ai
en face de certaines circonstances, quoi. Ça vous arrive de vous mettre en colère. Et alors, vous agissez avec une pulsion trop rapide et vous brisez. La colère brise. Toujours. Quand vous êtes en colère vis-à-vis de quelqu'un, vous dites une de ces paroles, il y a des colères intellectuelles qui sont des colères. Sans pluie, c'est beaucoup plus terrible qu'un orage que cueillir la pluie. Et la colère des intellectuels, c'est la parole mordante envoyée comme une flèche à l'endroit vulnérable. Et vous la teignez à l'endroit vulnérable. Vous avez prémédité ça depuis longtemps. Je t'aurai au coin. Ça, c'est la colère des intellectuels entre eux. La rage des théologiens, c'est connu. La rabiesse des théologiens. Si, si, cette colère des théologiens, des philosophes, des hommes scientifiques. Je vous ai dit, l'irascible est proche de l'intelligence. Et l'intelligence développe l'irascible. C'est la passion la plus noble. Et la colère est la passion la plus noble. Mais il faut que la colère soit dépassée dans la vertu de force pour chercher à rétablir l'ordre quand il faut que cet ordre soit établi. Je ne cherche pas de n'importe quelle matière à rétablir l'ordre. Voyez, prenez l'exemple très très simple où vous mettez en colère devant un désordre. Vous êtes passé le matin à la cuisine. Vous avez tout bien ordonné. Vous y revenez quelque temps après. Vous avez très peu de temps parce que ça presse. Et vous voyez un désordre complet. Et la chose essentielle que vous avez bien mis là pour l'avoir immédiatement disparu. Là, vous mettez en colère. Si vous n'êtes pas complètement maître, mais la question du temps joue beaucoup pour la colère. Quand on est précipité devant des événements qui doivent se faire rapidement, on se met beaucoup plus vite en colère. Quand on va manquer un train, devient humain. L'acte principale de la vertu de force, c'est la patience. C'est de pouvoir attendre, vous voyez. L'exercice de la patience. Quand vous attendez une heure devant la porte de quelqu'un, et que quand vous êtes tout proche, et qu'à ce moment-là, la personne s'en va, il y a facilement un petit mouvement de colère, sauf si vous êtes très vertueux et que vous dites « c'est très bien, j'ai toute l'éternité pour le voir ». Parce que c'est justement cet appel à l'éternité qui empêche de se mettre en colère en face d'un temps limité. C'est très curieux. La patience. C'est la vertu de force qui domine la colère et qui utilise toutes nos réserves en vue d'une activité qui soit vraie, qui soit bonne. Il y a la patience et puis il y a le fait de s'engager. L'agrédit, difficile à traduire. L'agrédit, le fait de s'engager, le fait de... Le petit chien qui aboie, vous savez. Le roquet qui aboie. Okay. La plupart du temps, les chiens aboient parce qu'ils ont peur. Vous voyez, un chien qui n'a pas peur, il mord, il se tait. Il vous attaque en silence, on dit, quand il commence à aboyer, ça bouffe une frousse énorme. Et vous n'avez qu'à frousser dessus, alors à ce moment-là, il fuit encore plus loin. Mais vous avez vous-même peur de son aboiement, et alors à ce moment-là, vous augmentez son aboiement. Ce qui est vrai à l'égard du chien est vrai à l'égard d'autres personnes. Donc il faut comprendre que le fait de l'agrédit, ça relève de la vertu de force. Mais ce n'est pas l'acte principal. L'acte principal de la force, c'est la patience. C'est de pouvoir prendre du recul. Ne pas s'engager tout de suite. S'engager au bon moment. Lutter au bon moment. Engager la lutte au bon moment. Ça, c'est l'agrédit. C'est la patience liée à ce fait. Qu'on attaque au bon moment. Il faudrait regarder toute la stratégie de lutte pour comprendre ce que c'est que la vertu de force. C'est sûr. C'est dans les luttes que la force se manifeste le plus. Il y a toujours dans notre passion d'irascible qui est plus proche de l'intelligence que le concupiscible un certain désir de manifester sa colère, de manifester sa force, de manifester sa force de patience. C'est très curieux. La vertu de force aime de se manifester. Et il faut être très fort pour arriver à se taire et disparaître. C'est une vertu de force très au service de l'amour. La vertu de force, donc, doit lutter contre toutes les fragilités, toutes les faiblesses affectives que nous pouvons ressentir. Quelqu'un qui est dans sa première éducation a été très brimé par une autorité trop forte, l'autorité paternelle ou l'autorité d'un pion, qui était beaucoup trop forte, restera fragile toute sa vie, pourra essayer de faire que petit à petit l'irascible renaisse Mais ordinairement, il reste blessé. Je crois que ce sont les blessures les plus profondes, celles de l'irascible. C'est des blessures plus profondes que celles du concupiscible. Le concupiscible repousse plus vite que l'irascible, c'est très curieux. L'irascible a quelque chose de plus noble, et donc il est quelque chose qui, lorsqu'il est abîmé, est plus difficile à redresser. Il faudrait regarder ici un point de vue psychologique. Toutes les conséquences d'un irascible non développé et brimé. D'un irascible qui a été obligé de se replier sur lui-même. Voyez, le refoulement de l'irascible. Ils sont repliés sur lui-même. Et en se repliant sur lui-même, a fait que il n'a plus la même spontanéité. Et il y a comme une peur qui peut se traduire dans une sorte de scrupule. Le scrupule est une peur religieuse. Puis il y a la peur, au point de vue purement humain. On a peur d'aimer. L'irascible a été cassé. Là, il y a quelque chose. C'est un repliement sur soi. Alors que l'irascible demande, comme tout amour. Et l'irascible, c'est un amour fort. C'est un amour conquérant. C'est un amour qui demande la victoire. C'est un amour d'espérance. C'est un amour d'audace. Et l'irascible demande donc cette victoire. Et la vertu de force est pour permettre cette victoire dans ce domaine particulier du bien sensible. Et lorsqu'il n'y a pas la vertu de force et qu'on a un irascible qui a été brisé en raison de sa première éducation, parce que c'est souvent ce qui arrive, alors à ce moment-là, il y a un repliement sur soi et une difficulté énorme d'aimer avec audace, d'aimer dans l'audace, d'aimer dans la lutte et l'espérance. La dernière vertu, c'est la vertu de tempérance. La dernière vertu cardinale, la vertu de tempérance. La vertu de tempérance vient ennoblir notre concupiscible. Le concupiscible comme l'irascible sont par nature bons. Ce qui est mauvais, c'est les excès de l'irascible ou les excès du concupiscible. Ordinairement, en nous, il y a un équilibre entre irascible et concupiscible. Lorsque nous sommes satisfaits du côté du concupiscible, l'irascible se tait. Et lorsque nous sommes insatisfaits du côté du concupiscible, l'irascible reprend du poil de la bête. C'est ça que vous direz toujours comme bon conseil à donner à une maîtresse de maison, à une épouse. Apaisez l'irascible de votre époux. Du père de famille en lui servant de bons petits plats. Ça apaisera son irascible. Ça mettra son irascible en veilleuse. Ça, c'est très très net. Un homme qui a faim est particulièrement colérique. N'allez jamais demander une permission à un supérieur avant le repas. Jamais. Après le repas, toujours, c'est simple, c'est du bon sens. C'est... Parce qu'avant, il a faim, voulez-vous, donc son irascible est développé. Et l'irascible aura, s'il n'est pas très vertueux, il ne faut jamais compter sur la vertu des supérieurs, n'est-ce pas ? Donc, s'il n'est pas très vertueux, source d'indépendance, mais d'autonome par l'irascible. Tandis que le concupiscible nous met en dépendance. Le concupiscible, il est beaucoup plus voilé. C'est le moine qui se cache dans son fromage. Il a fait son trou. Et il trouve que c'est pas si mal. C'est ça le concupiscible. Le concupiscible, ça s'étale pas, tandis que l'irascible s'étale et se manifeste. Il y a du panache du côté de l'irascible. Tandis que du côté du concupiscible, pas du tout. C'est toujours un peu honteux du concupiscible. Il y a moins de noblesse. C'est plus rampant. Puis ça colle davantage. Alors, on n'aime pas le manifester. Le concupiscible, c'est l'appétit passionnel du bien immédiat. Je ne dis pas du bien facile, mais du bien sensible, qui peut vous donner de la jouissance, qui peut vous donner une détente. C'est ça, l'appétit à l'égard du bien sensible. Le concupiscible, vous savez bien, il a six moments du concupiscible, les passions, les six passions du concupiscible. Il faut connaître parfaitement les six passions du concupiscible. C'est la passion amour qui est très cachée. La passion amour se manifeste ordinairement dans le désir, l'épitude. Héros se cache dans l'épitumia. Ordinairement, vous apercevez qu'il y a un amour du concupiscible, l'amour passionnel, qu'à partir du désir. Et souvent, les frustrations du désir manifestent davantage encore l'amour. L'amour passionnel. Il faut être séparé du chocolat pour s'apercevoir qu'on a un amour de concupiscible à l'égard du chocolat. Dans le carême. Parce que quand on vous sert du chocolat autant que vous en voulez, vous en prenez une fois, vous attrapez mal au foie et vous comprenez qu'il vaut mieux supprimer ça. Alors vous vous dirigez vous-même, vous épuisez le point de vue de l'appétit de cette manière-là. Donc il y a l'amour, le désir, la jouissance. Et comme tout bien sensible implique un mal, une limite, vous avez les opposés. La haine, ça fait partie du concupiscible, la haine. La haine noire, la haine qui veut détruire le mal sensible. C'est bon la haine, au niveau passionnel, c'est pas une passion mauvaise. Elle regarde le mal sensible. Il ne faut pas aimer le bien, le mal sensible. Aimer le sale, le mal sensible, c'est sadique. C'est un manque de vitalité. La haine est un signe de vitalité. La haine à l'égard du mal sensible, pas à l'égard des personnes. On n'a pas le droit d'avoir de la haine vis-à-vis des personnes. Au point de vue éthique, et éthique humaine, tout simplement. C'est à l'égard du mal sensible qui nous blesse. On ne peut pas le supporter. La haine, la fuite, la tristesse, six passions du concupiscible. Et on sait très bien que le concupiscible, c'est ce qui en nous prend le plus de place. Beaucoup plus de place que l'irascible. Sauf chez certains êtres qui se cérébralisent un peu trop, alors qu'ils n'ont plus aucune plus aucun concupiscible. Leur cœur est devenu un cœur de pierre. Alors il n'y a plus que la cérébralisation et le raisonnement. Il y a un danger, c'est évident. C'est pas bon. Les passions du concupiscible en soi sont bonnes. qui est mauvais, c'est l'excès. Et c'est très vrai que le concupiscible, très vite, devient excessif. Très vite. Comme l'irascible, mais le concupiscible spécialement, très vite, il devient excessif, c'est-à-dire qu'il déborde. Alors, la passion, amour, désir, j'ai un tel désir que devant ce désir, il n'y a plus que ça. On veut à tout prix satisfaire ce désir. On est pris par ça. Et le gosse qui aime la confiture, c'est très significatif de regarder ça, par tous les moyens. Et alors, la confiture qui aime le morceau de sucre, par tous les moyens, il obtient un morceau de sucre de sa mère, ou de son père. La concupiscence porte en premier lieu sur l'aliment. Et la première éducation du concupiscible, c'est par rapport à l'aliment. Ça, on n'a pas été bien éduqué par rapport à l'aliment et par rapport à la boisson. Ce sera plus difficile de se rééduquer avec l'eau fraîche et la purée de pommes de terre, n'est-ce pas ? Pour arriver à faire que l'aliment, encore la purée, c'est encore noble, mais il y a autre chose. Alors, oui, des aliments insipides, être obligé de se nourrir d'aliments insipides, c'est pas drôle pour le concupiscible. Il n'a aucune joie à manger, rien du tout. Ça peut arriver, ça. Alors à ce moment-là, le pauvre concupiscible, il en pâtit. Alors il se rattrape autrement, ordinairement. Quand le concupiscible vraiment pâtit trop, l'irascible augmente. Ça, c'est sûr. Ça fait bien, c'est connu, ça. Le père de famille, chrétien, qui est habitué de fumer, au début du carême, prend la résolution de ne pas fumer. Toute la famille en tremble. Vite que le carême se termine pour qu'il redevienne patient. Il faut se connaître, il faut connaître les pointes de notre concupiscible. Il faut connaître les matières dont on se rattrape par l'irascible. Chacun d'entre nous. Parce qu'il y a toujours une balance entre les deux. Donc le concupiscible peut imaginativement devenir insupportable. Toute la journée, on est hanté par le point de vue du concupiscible. Les oignons d'Égypte. Et ça, c'est une maladie classique des novices. Avant d'entrer, on n'avait jamais pensé à la nourriture. Il suffit d'entrer en religion pour qu'on pense à la nourriture. C'est complètement idiot. Hein. Et c'est comme ça, c'est un fait. Jamais pensé. Ça nous regarde, on ne s'en occupait pas. C'est très curieux, ça. Et dès qu'il y a le désert, on désire avoir des viandes grasses. On désire le pain dont Dieu donne la manne et l'écaille, et l'eau qui sort du rocher. C'est très curieux. Et la première éducation, c'est toujours de ce côté-là, vous voyez. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous rééduque par l'Eucharistie. C'est la nourriture. Et l'imaginaire, alors joue un rôle énorme. Vous voyez pourquoi le noviciat fait que tout cela reprend une importance énorme, alors qu'avant, on ne prenait aucune importance à notre vie. C'est l'imaginaire qui fait ça. On a la panique de ne pas pouvoir manger. On a la panique, et ainsi de suite, de rester le ventre vide et de voir les petits cochons qui, eux, mangent plaisir. Alors on a cette panique, l'imagination. L'imagination joue énormément sur le concupiscible, encore plus que sur l'irascible. L'irascible est plus intellectuel. L'irascible est plus vite réaliste que le concupiscible. Ce qui nous fait glisser le plus vers l'imaginaire, c'est le concupiscible. Le concupiscible est une propension vers l'imaginaire. Et alors on est capable de faire n'importe quoi pour satisfaire l'imaginaire. On sait qu'à la cuisine, il y a un frigidaire, on ira puiser dans le frigidaire, bien qu'on sait très bien que ça ne peut pas se faire. Et au bon moment, on comptera le permettre en sortant du frigidaire. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai, à sang-froid, dire, mais non, vous comprenez très bien, c'est à la cuisine, c'est, on n'y va pas, on ne mange pas entre les repas. Ah oui, mais si l'imaginaire s'y met, l'imaginaire ne pousse. Alors on dit, mais quoi, avant, j'avais jamais ça, avant, je... Il suffit d'entrer en vie religieuse pour ça. Mais la vie religieuse nous rééduque radicalement. C'est pour ça qu'on appelle un noviciat. On s'aperçoit qu'on n'a pas de vertu. Vous croyez que vous avez la vertu de tempérance avant d'entrer? Mais non. Vous n'avez pas du tout la vertu de tempérance. Vous pouviez être un excellent sportif. Mais on peut être sportif sans avoir la vertu de tempérance. Uniquement au point de vue art. Regardez, une danseuse qui entre au Carmel. Elle trouve que les carmélites ne sont pas du tout ascétiques. Elle était bien plus ascétique en tant que danseuse. Mais au tournant, le Seigneur lui montre qu'elle n'a pas la vertu de tempérance. On peut être très ascétique et ne pas avoir la vertu de tempérance. Parce qu'on veut garder la ligne. Le danseur, la danseuse veut garder la ligne. Ah, faut pas trop manger. Non. Faut pas que je dépasse tant. Alors la pesée des bébés, des novices, fait qu'on est très attentif. C'est pas un motif humain, ça. C'est uniquement une ascèse sportive. L'ascèse sportive n'est pas la vertu. Il faut distinguer la vertu qui fait qu'on mange pour pouvoir faire ce qu'on doit faire pour garder la santé. Puisque dans la vie religieuse, la santé ne nous appartient plus. Notre corps ne nous appartient plus. Donc nous n'avons pas le droit de mettre notre corps en péril. On tombera malade et puis tout le monde en paiera les conséquences. On a manqué de prudence. On a manqué de tempérance. La tempérance nous fait manger ce qu'on doit manger pour pouvoir réaliser ce qu'on doit réaliser. Donc, s'il y a une ascèse trop grande, une ascèse sportive trop grande, ça peut être contraire à la tempérance. Celui qui ne mange pas suffisamment n'agit pas vertueusement. Et c'est très important de découvrir ce que c'est que la vertu de tempérance. Hein, parce qu'on ne l'avait pas du tout avant d'entrer. On ne savait pas du tout ce que c'était. La vertu de tempérance maintient un équilibre à l'égard des biens sensibles, qui restent des biens sensibles. Il ne faut pas dire, il faut nécessairement, pour être tempérant, ne plus avoir aucun goût. Et donc prendre aussi bien d'aimer insipide que d'aimer délicieux. Non. Ça n'a rien à voir avec la tempérance. La tempérance consiste à manger ce qui est nécessaire à notre vie, selon l'équilibre prudentiel de notre vie. La vertu de tempérance, dans son exercice, dépend de la prudence. Alors évidemment, notre prudence est une prudence chrétienne. La prudence religieuse n'est pas la même que la prudence de quelqu'un qui est dans le monde. C'est sûr. Le petit déjeuner de quelqu'un qui est dans la vie monastique, dans la vie religieuse, que celui qui est en dehors de la vie religieuse n'est pas le même au point de vue de la tempérance. On doit prendre suffisamment pour pouvoir tenir jusqu'au dernier cours et jusqu'à la messe. Parce que si pendant toute la messe, vous ne pensez qu'au repas, c'est ennuyeux. Les oignons d'Égypte. Et ceci parce que vous n'avez rien mangé le matin. Bon, vous le faites de temps en temps. Il le faut. Jeûner. Un coup dur. Vous continuerez de le faire. Parce que c'est pour en entretenir ça. C'est bien. Mais il faut encore que le jeûne se fasse selon les exigences de la vertu de tempérance. Celui qui voudrait jeûner de trop, ça tomberait justement une espèce d'assez sportive. Mais là, vous saisissez bien ce que c'est que la vertu et la différence de l'art. La cesse est d'ordre artistique. Vous essayez de faire que votre ceinture se resserre de plus en plus. Et vous êtes heureux d'arriver à « enfin, je suis arrivé au dernier » Non, je suis arrivé là. Là, je me sens bien. Mon corps devient aérien. Ah oui, oui, oui. Ça, tout ça, c'est du sentiment. Ça n'a rien à voir avec la vertu. Parce que votre corps n'est jamais aérien. Il reste un corps qui a besoin de manger. La santé. La vertu de chasteté, la vertu de tempérance va naître par rapport à l'équilibre de notre vie. Et vous voyez, c'est nécessaire qu'une vertu à cause de l'imaginaire. L'imaginaire qui grossit, ou qui amaigrit. Hein. Vous avez les deux sens. On peut arriver à avoir horreur de manger. Il y a des gens qui ont horreur de manger. Il y a des gens qui, au contraire, s'installent en mangeant. Très bien. Les soldats de Gédéon, il faut laper l'eau. En passant, il ne faut pas trop s'installer. Si on s'installe ordinairement, vous voyez bien, ça manque un peu de tempérance. Et rester uniquement en lapant l'eau sans tenir compte du travail qu'on doit faire, ça peut aussi manquer de la vertu de tempérance. Notre corps est ordonné à notre vie humaine vertueuse, à notre vie religieuse de prière et de travail. Donc il est ordonné à cela, et notre santé est ordonnée à cela, puisque notre santé ne nous appartient plus dans la vie religieuse. Dans la vie du monde, c'est la même chose. Le corps est notre bien, notre patrimoine, qu'on n'a pas le droit de dissiper. Vous n'avez pas le droit. Évidemment, quand on est très jeune, on s'en aperçoit pas, on ne fait pas attention. Alors, quelquefois, on fait des bêtises qui resteront du reste toute sa vie. On n'a jamais voulu manger raisonnablement. On a cherché à être le peuplier extrêmement affiné, parce que ça faisait mieux. Là, il y a un petit plumage au terme, et tout le reste. Parce qu'on a vécu devant une tante qui était un cèdre, ambulant. Là, on a dit, oh, surtout pas être comme ça. Là, ça a été une espèce d'horreur de ça. Ouais, non. Surtout pas comme ça, surtout pas que je devienne comme ça là. Et c'est vrai, ces choses-là c'est le sens de notre corps face à l'aliment. C'est le sens de notre corps face à l'aliment qui fait que l'aliment doit être mesuré en vue de la faim, en vue de la faim que nous poursuivons. Et que notre corps doit être un instrument de l'âme, un organone, l'organone psyché, comme dire ça, c'est l'instrument de l'âme, pour permettre à l'âme d'accomplir pleinement ce qu'elle doit faire. Et c'est pour ça qu'on ne mange pas de la même façon en hiver ou en été, quand on a un travail intellectuel ou un travail matériel. Tout ça réclame une certaine prudence. Parce que c'est vrai, si vous avez pris un repas trop abondant, vous ne pouvez plus travailler. Ben, c'est pas bien. Sauf les jours de fête où Monseigneur est là. Alors à ce moment-là, c'est différent. Il y a la grande détente, la grande fête. Alors, très très bien. Mais ça arrive une fois par an. Vous commencez à travailler qu'un peu plus tard. Mais autrement, vous devez savoir que tout votre temps doit être donné, tout votre corps doit être offert en hostile louange. La vertu de tempérance, qu'est-ce qu'elle a comme qualité particulière, la vertu de tempérance? C'est de réfréner le concupiscible. Et le concupiscible n'est pas un élan, il demande au contraire d'être réfréné. Mais d'être réfréné d'une façon prudentielle, d'une façon intelligente, et ne doit pas être réfréné d'une façon telle qu'il nous empêche de servir de notre corps, de nos forces. Il doit être réfréné d'une façon telle que tout est mis en valeur pour que je puisse accomplir ce qui m'est demandé. Mais c'est une vertu qui est dans le concupiscible. La tempérance, c'est la marque de l'intelligence, du spirituel, dans le concupiscible. Le concupiscible s'éduque. Alors voyez la différence entre le dressage d'un animal et l'éducation d'un enfant. Dans le dressage de l'animal, vous voulez que l'animal soit propre, vous le dressez, et vous dressez le concupiscible du chien et du chat. Et le dressage, ça fait de l'extérieur, et le chien et le chat n'acquièrent pas la vertu. Vous pouvez avoir des chiens qui restent en face d'un os qu'ils avaient envie vraiment de prendre parce qu'ils sont en face de leur maître et ne prendront le morceau de sucre et l'os que quand le maître ira prendre bien dressé. Et quelquefois apparemment c'est beaucoup plus net que la vertu, parce qu'à un enfant vous ne demandez pas ça, et l'enfant vous savez bien quand il est en face du chocolat, en face du sucre, mais il n'hésitera pas de mettre la main avant qu'on lui permette, quand sa vertu de tempérance n'est pas déjà très ancrée. C'est plus rapide le dressage que la vertu de tempérance. C'est plus lent à acquérir, mais c'est beaucoup plus souple. Les voies déterminées de l'art et les voies indéterminées de la vertu. Parce que la vertu dépend d'un chacun. Et le dressage